Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Un Sénégalais a battu à mort sa jeune épouse enceinte de 3 mois parce qu'elle ne lui avait pas préparé son repas. Le 14 novembre 2019, Aminata K, 22 ans, est rentrée chez elle épuisée après des examens à l'hôpital. Comme elle n'a pas pu préparer le repas, son mari l'a rouée de coups jusqu'à ce qu'elle succombe à ses blessures. La police a été appelée sur les lieux par les voisins. Le mari a été arrêté à son domicile. Madame K subissait des violences quotidiennes et avait le visage fréquemment couvert de bleu, selon des voisins. La police malienne a secouru 64 victimes de trafic humain livrées à l'exploitation sexuelle et au travail forcé. 4 trafiquants ont été arrêtés selon Interpol, qui a coordonné l'opération en octobre. Les victimes, pour la plupart des femmes et des filles, venaient du Burkina Faso, de Guinée, du Nigeria et du Mali. Elles étaient exploitées dans des bars, des maisons ou des sites miniers. Un jeune couple a été lapidé le 6 novembre 2019 dans l'état du Karnataka en Inde par des proches de la femme. Opposée à son mariage avec un homme d'une caste considérée comme inférieure, les jeunes mariés avaient dû fuir leur village natal et s'installer en ville où ils ont eu 2 enfants. Ils étaient retournés en septembre dans la localité pour rencontrer des proches. Des villageois ont informé le frère de la femme. Ce dernier a rassemblé un groupe d'hommes qui ont tué les 2 jeunes mariés à coups de pierre. 3 des principaux accusés ont été identifiés, dont le frère et l'oncle de la femme, a déclaré la police. Depuis 2011, les coupables de crimes d'honneur en Inde sont passibles de la peine de mort.
Paroles de femmes.
Il y a 25 ans, les femmes n'étaient pas autorisées à piloter les avions de combat ni à conduire des chars. Malgré plusieurs générations de préjugés physiques et culturels, elles ont été attirées par les forces armées et font maintenant partie des bataillons. Libby Hines, une combattante de la Seconde Guerre mondiale, a pu réaliser son rêve alors qu'il semblait impossible. Lionel Gaïma relate son histoire.
Libby Haynes a 92 ans. Les avions ont été sa passion plus de 75 ans. Lorsque sa mère lui a offert $10 comme cadeau d'anniversaire pour ses 17 ans, elle savait exactement quoi en faire.
J'ai pris une leçon de pilotage, j'ai dépensé $6 pour louer un Piper Cub pendant 1 heure, $3 pour un instructeur et $1 pour le journal de bord.
En 1945, l'adolescente avait déjà terminé un programme de formation des cadets de la patrouille aérienne civile et devient infirmière. Après la Seconde Guerre mondiale, elle décide de retourner dans le ciel.
Je venais d'avoir une très forte inspiration et je devais rejoindre l'armée de l'air. Je ne sais pas si je devrais dire guidée par Dieu ou que sais-je, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie.
L'armée américaine n'a commencé à enrôler des femmes dans le service militaire actif qu'en 1972. Mais Haynes était déjà météorologiste militaire. Elle se déplaçait avec la patrouille aérienne civile et a même réussi à s'acheter un petit avion qu'elle utilisait pour rentrer chez elle le week-end.
J'avais un permis d'étudiant lorsque j'ai acheté ce PG-23 surplus à $500 à l'époque, ce qui représentait 2 mois de salaire.
Son travail lui a apporté plus qu'une satisfaction professionnelle car elle y a rencontré son mari, un pilote. Lorsqu'elle est tombée enceinte, une de ses collègues a dit à ses supérieurs qu'elle était en congé. Marilla Koshman, du Mémorial de femmes américaines dans le service militaire.
C'était un temps où si vous avez des enfants, si vous tombez enceinte, que vous soyez mariée ou pas, vous perdiez votre travail.
Au milieu des années 70, les règles ont changé. Les femmes ont été autorisées à piloter des avions, mais pas les avions de combat. Après la guerre du Golfe de 1990 à 1991, cette limitation a été également supprimée. Aujourd'hui, les femmes représentent 14% des effectifs de l'armée américaine. Il a fallu plusieurs années de lutte pour en arriver là.
Si je ne pouvais.
Au Togo, le thème central de la semaine de la jeune fille fin octobre était une éducation de qualité pour des jeunes filles épanouies. Au cours de cette semaine, filles et garçons ont été fortement impliqués dans des débats sur les stéréotypes et l'égalité des genres. Notre correspondante Kay Lawson a tendu son micro à des participants.
Briser le silence autour de la discrimination et du harcèlement en milieu scolaire, c'est ce à quoi les participants à la semaine de la jeune fille ont été conviés. Ont participé à cette édition des filles comme des garçons. L'occasion a été saisie pour sensibiliser ces jeunes élèves à prendre conscience de leur potentialité et à s'engager dans la défense des droits des femmes. Elsa Bakolé, activiste sur les questions d'équité genre.
Si nous ne faisons que travailler sur les filles, nous ne faisons rien. Nous travaillons avec les filles et les garçons. Pour leur faire comprendre un certain nombre de choses, là où l'autonomie peut les amener, là où les conséquences de leurs actes peuvent les amener. L'éducation, c'est la base, c'est ce qui va les rendre autonomes, c'est pour le moment la solution principale même que nous avons.
Pour aller vers un monde plus égalitaire, il faut une implication ardue des hommes. Confiant cette affirmation, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a développé le concept de masculinité positive. Cette approche a été présentée lors de la semaine de la jeune fille par Dr Kokou Amegantchevi. Il est l'assistant du Dr Denis Mukwege.
La masculinité positive, c'est un concept qui permet à l'homme de prendre la relève du combat. Parce que depuis longtemps, la femme a été au front de la lutte. L'homme doit comprendre que la femme n'est pas créée pour lui comme une proie, donc il pourra se servir comme il croit. Donc il doit considérer au contraire que la femme est un être humain égal à lui et que la femme est son vis-à-vis, son partenaire, fait partie de sa commune humanité.
Faire dos aux stéréotypes, mettre fin aux grossesses précoces, éradiquer les discriminations, promouvoir l'égalité des chances ont été entre autres thématiques abordées. Voici ce que ces garçons ont pu retenir de leur participation.
J'étais en classe de première C4. On nous a parlé de l'émancipation de la jeune fille, comment éviter les grossesses précoces pour les jeunes filles et pour nous les garçons, comment éviter de discriminer les jeunes filles.
Philippe, j'ai 16 ans. Je suis élève en classe de première D. Selon moi, la discrimination envers les filles, c'est qu'on donne certains travaux aux hommes, mais on refuse de les donner aux femmes. Donc, selon moi, l'égalité des chances dans tous les domaines.
J'ai 18 ans, élève en classe de terminale D. Lorsqu'on parle de l'égalité des sexes, il va falloir que les hommes, tout comme les femmes, fassent le même travail à la maison. Étant donné que nous désirons que les femmes puissent aller à l'école, ils doivent pouvoir avoir un temps pour apprendre.
Ce que les garçons ont retenu semble être un peu différent de celui des filles.
Je suis en classe de 3e. La chose la plus importante que j'ai retenu, c'est que je dois être leader. Premièrement, leader dans mon milieu, dans ma famille dans mon école. Et quand je suis leader dans ce domaine, je pourrais être leader partout où je veux.
Armelle, j'ai 18 ans, je suis en terminale A. Moi, ce qui m'a énormément touchée, je promets de mettre ça en pratique, c'est l'abstinence. Si nous abstenons, je ne vois pas le problème. On n'aura pas des grossesses précoces ni des maladies.
Est-ce une histoire? Je viens du lycée de Bali. J'ai retenu qu'en tant que fille, nous devons nous battre, travailler dur pour atteindre nos objectifs et aussi développer notre confiance en soi.
La semaine de la jeune fille est une initiative du groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement, GF2D. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Est-ce que la jeunesse pouvait?
Dans le monde, toutes les 11 secondes, une mère meurt en couche ou un bébé à la naissance, selon les statistiques de l'ONU. Le rapport montre toutefois un progrès ces dernières décennies. Par rapport au tout début du XXIe siècle, il y a quasiment deux fois moins d'enfants de moins de 5 ans qui meurent. Ils étaient tout de même 5,3 millions en 2018. La mortalité maternelle a reculé de plus d'un tiers, mais les femmes sont encore environ 800 par jour à perdre la vie. La plupart de ces décès pourraient être évités, rappelle l'UNICEF. En Afrique subsaharienne, le taux de mortalité des mères est près de 50 fois supérieur aux pays les plus riches, tandis que les bébés y ont 10 fois moins de chances de survivre.
Entre parenthèses.
Salif Keïta a créé dans son pays, le Mali, une entreprise dans laquelle il embauche des femmes pour produire des condiments. Le chanteur à la voix d'or en a parlé au cours d'un entretien à la Voix de l'Amérique, dans lequel il a notamment rendu hommage à sa mère, qui a affronté les croyances rétrogrades pour protéger son fils atteint d'albinisme. Dans cette interview, il revient sur son annonce de 2018, disant mettre un terme à sa carrière musicale, tout en affirmant continuer la production d'artistes dans son studio à Bamako, où la chanteuse sud-africaine Simfiwi Dana a enregistré son dernier album.
Un album, c'est beaucoup de morceaux, c'est 12 morceaux, sinon plus, je n'ai plus l'énergie de faire ça. Je vais peut-être faire des arrangements isolés, mais pas des disques. Parce que je crois que j'ai l'âge de la retraite et j'aimerais bien me reposer pour faire un album. Il faut du temps.
Votre album, vous l'avez appelé Un Autre Blanc. Pourquoi Un Autre Blanc?
Un Autre Blanc parce que moi, je suis un Africain. Moi, j'ai le sang noir et la peau blanche. Et les Blancs, ils sont de peau blanche et de race blanche. Donc moi, je suis un autre Blanc.
Dans cet album, vous avez vraiment de très beaux morceaux. Vous l'avez d'ailleurs sorti à l'occasion du concert à Fana au Mali, n'est-ce pas, en hommage à cette petite fille de 5 ans, Ramata, qui était donc albinos et qui a été assassinée. Pourriez-vous nous dire un mot sur ce concert, sur ce qu'il en ressort, sur ce que vous retenez?
Je sais que c'était magique ce concert parce que c'est une leçon qu'on a donnée aux criminels. Il y avait à peu près 60 000 personnes dans le stade. Et vraiment, c'était une réussite. C'était une gifle qu'on a donnée aux criminels qui croient que la vie s'arrête là. Non, non, non. C'était vraiment quelque chose de grandiose.
Alors justement, au niveau de l'albinisme, pendant toutes ces années, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des progrès?
Il y a eu beaucoup de progrès. D'abord, les albinos ne s'assumaient pas parce qu'ils ne se fréquentaient pas. Ils ne s'aimaient pas. Et maintenant, ils se voient, ils se consultent, ils font des associations et ils se battent pour leur cause commune. Et ça, c'est une grande réussite. Et d'autre part, il y a eu quand même les Nations Unies qui ont voté le 13 juin comme journée de l'albinisme. Donc ça, c'est un grand pas, une grande chance pour nous. Et dans le monde entier, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour rendre la vie paisible des albinos.
Mais en ce qui concerne les croyances, les mentalités, pendant une cinquantaine d'années, quel type de progrès vous avez pu observer? Est-ce que les mentalités ont réellement évolué?
Mais pour lutter contre une culture, ce n'est pas facile, Nathalie. Il faut avoir la persévérance, il faut se donner, il faut avoir le cœur. Et il faut être convaincu de ce qu'on est en train de faire. Et nous sommes convaincus qu'on va réussir. Et c'est vrai que toujours il y a des assassinats, il y a des sacrifices humains perpétrés sur les albinos, mais on ne va pas les laisser faire. On va se battre pour que ça cesse. Parce que c'est une culture. Et une culture, c'est pendant les millénaires que ça s'installe. Donc on ne peut pas se battre quelques jours et l'effacer et gagner. Mais nous sommes sûrs de gagner. On va gagner.
Les commanditaires, les procès, les jugements. Dans tout ça, est-ce qu'il y en a eu?
Il y en a eu, et elles sont toujours bloquées. C'est vrai que les vrais commanditaires de ces assassinats sont replacés. Et chaque fois qu'on veut monter la roue, on nous bloque.
Mais vous-même qui êtes haut placé dans le monde des artistes, oui. Vous n'avez pas la possibilité de dénoncer certains commanditaires?
Je suis haut placé peut-être parmi les artistes, je ne suis pas haut placé politiquement ou certainement des personnes. C'est pas facile pour moi seul d'y arriver.
Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie, hein, on connaît bien ce pays, hein, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Une très belle vidéo, vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. C'est une chanson contre la guerre, bien entendu, mais pas seulement, on imagine en Syrie, partout dans le monde.
C'est partout dans le monde. Je voulais parler de la guerre, mais partout dans le monde. Parce que si vous voyez, Nathalie, qui souffre dans tout ça? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes dans les mains des enfants en train de chercher des abeilles. On ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc je parle de toutes les guerres dans le monde.
À propos de femmes, Itarafo, c'est un autre morceau de votre album.
Oui.
Angélique Kidjo y a participé. Quelle est cette histoire, l'histoire de Itarafo?
Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à ma mère, voilà, c'est à cause de cet enfant que ton mariage risque de casser. Donc, débrasse-toi de ça, de cet enfant, comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas.
C'est en rapport à votre histoire?
Oui, Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Moi, je préfère cet enfant à d'autres choses.
Donc on revient encore dans le problème de la culture dont vous parliez tout à l'heure. Le morceau Mansa Fola, avec la participation de Alpha Blondie. Alors là, vous tirez sur l'extrémisme, justement, dans votre pays, notamment au Mali.
Il y a tout des scrocs, maintenant. Ils viennent avec le nom de Dieu pour exploiter les gens. C'est des escrocs, c'est des voleurs. Et qui, aux yeux de tout le monde, sont en train d'escroquer la masse populaire qui est naïve. Et ça, je crois qu'il faut que ça cesse, ça. Il faut que ça soit dénoncé.
Vous avez beaucoup influencé la musique moderne africaine. Si l'on parle d'une sorte de rétrospective en ce qui vous concerne, comment voyez-vous votre évolution à vous, ces 40 années de carrière, environ 25 albums? Si vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous voyez?
Je suis toujours à l'école. On ne finit jamais d'apprendre. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné beaucoup d'expérience, Carlos Santana, José Avinul. J'ai travaillé avec Kanté Mafela qui m'a tout appris, pour ne citer que ceci parmi tant d'autres qui m'ont donné de l'expérience. Mais tant qu'on n'est pas mort, on est toujours à l'école, on apprend toujours.
C'est une bonne leçon que vous nous donnez là.
Oui, merci.
On va parler de votre studio à Bamako, justement. Vous produisez de nombreux artistes dans ce studio?
Oui, tous les garçons, toutes les filles qui veulent s'impliquer dans la musique, on les reçoit à bras ouverts.
Vous produisez des artistes africains. Natou Camara m'avait dit que l'avantage était que c'était un excellent studio et que c'est beaucoup moins cher qu'en Europe ou qu'en Occident. Est-ce que vous pensez éventuellement produire des artistes occidentaux?
Ah, il y a des artistes occidentaux qui sont partis là-bas. Il y a plein d'artistes occidentaux qui sont venus enregistrer dans le studio. C'est ouvert pour tout le monde.
Quand vous dites que c'est ouvert pour tout le monde, vous avez en vue des artistes?
On vient de produire une femme sud-africaine, Simpewe, qui est venu nous voir, on a produit son album et c'était vraiment génial. Mmh. Ça doit sortir en avril.
Vous avez également monté une association de femmes sur la vente, la fabrication de condiments, c'est cela? Oui. En Afrique, c'est où? C'est au Mali?
Oui, j'ai plutôt fait une petite usine pour employer des femmes. Parce que je sais que les femmes ne travaillent pas souvent et qu'elles ont tellement de charges familiales que je serais très content d'employer plus de femmes que maintenant, d'ailleurs.
Vous en avez une quarantaine, c'est
une
ça?
Une quarantaine, oui.
C'est déjà beaucoup, oui. Et vous voulez agrandir donc l'entreprise?
Oui, je sais que vraiment elles ont besoin de ça et je serais très content, très fier d'employer de plus en plus de femmes.
Alors comment vous les avez sélectionnées, ces dames?
Ces dames, on les sélectionne selon... Elles viennent. Dès qu'elles ont senti qu'il y a du travail pour les femmes, elles viennent. Et quand elles viennent, tout ce qu'on demande seulement, est-ce que vous avez le temps de travailler? Parce qu'il y a certaines femmes... Leurs maris ne veulent pas qu'elles travaillent. Ça, c'est aussi. Non seulement ils ne donnent rien aux femmes, mais ils ne veulent pas que les femmes travaillent. On ne veut pas créer de problème familial. On leur dit, est-ce que vous avez le temps de travailler? Quand elles disent oui, on les emploie.
Et donc, c'est des femmes de tout âge?
De tout âge.
Et quel type de condiments elles produisent?
Nous faisons du piment, du poivre et du soumbala.
Donc vous avez commencé à commercialiser déjà?
On a commencé à commercialiser.
Et l'objectif, c'est d'exporter aussi?
J'aimerais bien avoir des correspondants en dehors du Mali, en dehors de l'Afrique d'ailleurs, parce que je sais que c'est des bons produits.
Vous allez donner la griffe Salif Keïta?
La griffe Salif Keïta. Oui, mais je sais que ça s'appelle pour le moment, ça s'appelle Nafin. Et Nafin, ça veut dire les condiments. La société s'appelle Nasraoulé.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Pourquoi les condiments? Parce qu'on a très bons condiments en Afrique? Parce que vous adorez ça ou...
Non, parce que je crois que les condiments, nous sommes en train de partir dans d'autres sens, utiliser des condiments qui ne sont pas des condiments africains. Or, ça, c'est des condiments africains. On consomme local.
À propos de femmes encore, la situation des femmes en Afrique et dans le monde. L'on sait que...
Si les femmes étaient... à la pointe de la politique mondiale, nous n'allons pas souffrir comme ça. Parce que c'est nos mamans. Elles sont prêtes à tout faire pour les enfants. Parce que c'est elles qui ont l'amour au monde.
Donc vous, M. Keïta, vous en êtes conscient. Mais est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes dans ce monde sont conscientes de ce que vous venez de dire et d'affirmer?
J'espère. On va avoir de plus en plus de femmes responsables dans le monde pour nous sauver.
Est-ce que vous pensez que les hommes auraient plus ou moins peur de voir plus de femmes au pouvoir? Est-ce que vous pensez que ce sont les hommes, certains hommes, qui pourraient freiner cette marche, en tout cas pour qu'on parvienne à la parité?
On va le comprendre, Nathalie. On ne va pas s'arrêter là, on s'en fiche. Si tu es content ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous voulons sauver le monde. Et c'est avec les femmes qu'on va le sauver. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je sais comment ma maman a souffert pour que j'en sois là.
Vous voulez dire encore un mot sur votre maman?
Oui. Les femmes sont braves parce que l'exemple, c'est ma mère.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre maman?
Elle m'a donné beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Elle a failli mourir à cause de moi. Elle a trop souffert à cause de moi. Et je sais que toutes les femmes sont pareilles comme ça. Beaucoup de femmes sont prêtes à donner leur vie pour leur progéniture.
Salif Keïta, dont vous pouvez voir l'entretien vidéo sur notre site internet et la page de Facebook de VOA Afrique. On se quitte sur la chanson Itarafo de l'album Un autre blanc du chanteur-compositeur malien, interprété avec sa consœur béninoise Angélique Kidjo. C'était Nathalie Barge pour Le Monde au féminin. Bon courage et à très bientôt. Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Entre DKR et Bonnard.